On va faire notre dernier cours, Bezrat Hashem, sur le chapitre 4, et probablement qu'on aura le temps aussi de commencer le chapitre 5. On va faire un petit résumé. Donc nous sommes volume 3, page 54, à la fin du chapitre 4, quelques lignes qu'on va essayer de développer, Bezrat Hashem. On a parlé longuement, les deux premiers cours sur le chapitre 4, de la notion de Yesh Me'ayin, que la création d'Akadosh Baruch Hu, pour créer ce monde et pour créer l'univers, pour nous créer nous tout court, est une création qui est Yesh Me'ayin, ça veut dire ex nihilo. Mmh. Et que, si on se pose la question pourquoi Dieu nous a créés, en vérité, Dieu n'a aucun intérêt à nous créer. Il ne l'a pas fait par intérêt. La seule raison pour laquelle Dieu l'a fait, rappelez-vous le cours de, il y a deux cours, c'est parce que Dieu, il est Teva Hatov Lehetiv. Dieu, c'est la nature du bien pour faire le bien. Point barre. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, si ça ne tenait qu'à lui, entre guillemets, il n'aurait fait que donner sans rien attendre en retour, parce qu'il n'attend rien en retour. Seulement, Dieu sait que si il va nous donner sans qu'on fasse quoi que ce soit, on va devenir pourri gâté. Et du coup, on ne va pas apprécier ce qu'on reçoit. Et donc, il va s'avérer que le cadeau qu'il nous donne se retourne contre nous. Donc, à Kadosh Baruch Hu, pour pallier ce problème, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je vous ai déjà donné, mais pour recevoir ce que je vous ai donné, vous allez devoir fournir un effort. Mais ne croyez pas que c'est l'effort que vous avez fourni qui va générer le résultat que vous allez obtenir. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ne crois pas que parce que moi j'ai fait telle mitzvah, donc ça a généré un résultat, c'est pour ça que Dieu me paye. Dieu a envie de te donner depuis le début. Dieu, il veut te donner, il veut tout te donner, sans aucune limite. Seulement, comme Dieu veut que tu mérites, alors Dieu lui dit, bon, alors on va attendre qu'il fasse un effort. Et là, on va lui donner comme ça, lui mérite, comme ça, c'est pour son bien. Ça sera pour son bien de recevoir ce qu'il va recevoir.
Tu parles de matériel.
Tout, matériellement et spirituellement. Dieu ne veut que donner. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'un bras droit, il n'a pas de bras gauche. Il veut que donner. Et même quand Dieu retient, et c'est très important cette idée, on a terminé la semaine dernière, même quand Dieu retient, c'est toujours le bras droit qui retient. Ça veut dire que nous, dans notre esprit, on a un accélérateur et un frein. Tu dis, bon, ben, t'as un accélérateur, c'est un moteur, et t'as un frein, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Dans une voiture, l'accélérateur et le frein, c'est pas le même moteur, ça n'a rien à voir. On pourra avoir une voiture avec un moteur qui accélère sans frein, on pourra avoir une voiture avec un frein, d'accord, mais qui n'a pas de moteur. C'est deux paramètres complètement différents, on est d'accord, ça, tu nous confirmes. D'accord, c'est deux fonctions complètement différentes. Complètement différentes, ça n'a rien à voir. Le moteur il est là pour accélérer, le frein il est là pour freiner. Exactement. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a que l'accélérateur, il y a que le moteur. Il fait que donner. Seulement parfois, il dit, comme je veux donner pour son bien, il faut retenir parce que sinon ça va retourner contre lui. Donc Hachem, il dit, bon, on baisse un peu la fréquence, d'accord, on baisse un peu la cadence. J'attends qu'il se prépare et dès qu'il est prêt, je lui envoie. Mais c'est pas qu'il y a un frein. C'est pas qu'Hachem lui dit, bon, je lui donne pas. Hachem ne dit jamais, je donne pas.
Il déroule tout le temps, quoi.
Il n'y a pas ce mot chez Hachem, je donne pas. Ce qui arrive chez Hachem, c'est que parfois Hachem va dire, je lui ai déjà donné, mais il ne peut pas encore le recevoir. Il peut pas. Donc il ne peut pas encore le recevoir. Là, on va attendre qu'ils soient en état de le recevoir. Mais moi, je lui ai donné. C'est ce qu'on a expliqué. Et ça, avec ça, on comprend l'analogie qu'a fait David HaMelech, dans le fameux psaume, dans lequel il a comparé Hachem et Elohim au soleil et au bouclier. Parce que là, on voit clairement que c'est toujours la même lumière qui éclaire, seulement cette même lumière, des fois elle va être réduite, mais c'est finalement pour le bien de ceux qui vont recevoir. Ok. Là, maintenant, on va ouvrir un crochet, très intéressant. Et on va parler de... Alors, en fait, c'est proche, je dis que c'est un crochet, parce que c'est une note que l'Admor HaZaken a rajoutée sur le Tanya. Après la première édition. C'est-à-dire que d'abord, il y a une première édition, et là, normalement, le chapitre 4 s'arrêtait ici. S'arrêtait où on s'arrêtait la semaine dernière. En haut de la page 54. Et après, dans une deuxième édition, enfin, c'était pas les éditions à l'époque, c'était les manuscrits, il a rajouté cette note. Donc c'est une forme d'annexe. Un annexe pour s'arrêter sur quoi? Pour s'arrêter sur le sujet du Tzimtzoum. Voilà, il faut qu'on s'arrête un peu sur ce sujet, parce que c'est un sujet passionnant dans la Kabbalah, dans lequel il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Et il faut qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Dans la Kabbalah, on parle beaucoup de Tzimtzoum. Je vais traduire Tzimtzoum en français. Tzimtzoum en français, ça veut dire contraction. Contraction. D'accord ? Contraction, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que Quand par exemple tu veux donner une lumière, bah, imaginez que j'ai une lumière, j'ai un gros spot qui éclaire ici, mais que s'il éclaire trop fort, il va m'éblouir. Donc on va essayer de contracter la lumière de ce spot. Ah, t'inquiète pas, voilà, c'est bon, t'es pas ébloui, Serge, tout va bien. Donc on va essayer de contracter. C'est quoi contracter? Alors comment, contracter, c'est synonyme de quoi? Contracter, ça veut dire quoi? On va faire quoi avec cette lumière?
On va la brider,
l'atténuer, la réduire, la stocker. Ouais, c'est quoi?
L'atténuer.
Comment on contracte?
Tu mets quelque chose devant.
Non, contracter, c'est pas ça. Mais en français, c'est pas ça, contracter.
Ah oui, parce que vous savez, par exemple, pour ceux qui se connaissent un peu en informatique, on a la notion de la compression.
Voilà, les fichiers compressés.
Oui. Par exemple, vous avez un fichier, je donne un exemple.
Ça veut dire exactement la même chose que la transaction. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le même produit qui prend moins de place.
J'y arrive. C'est quoi la compression? C'est quoi la compression? T'as plein de petits fichiers par-ci par-là qui traînent, et ces petits fichiers, ils vont prendre 10 gigas. D'accord? Maintenant, tu vas lancer un programme qui s'appelle WinZip ou WinRAR, enfin peu importe, ou ton Windows, peu importe. Il va te faire un fichier compressé. Ce fichier compressé, si c'est des fichiers texte, etc., il va faire 1 giga. Tu dis, mais c'est pas possible, j'en avais 10 et j'ai 1 giga. Où sont partis les 9 gigas? Ils ont été compressés. Compressés, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui vont compresser. Maintenant, normalement, quand tu compresses, tu perds.
Oui.
D'accord? Mais c'est une compression sans perte. C'est-à-dire que tu peux le compresser et le décompresser autant de fois que tu veux. Et si maintenant, à l'instant même, tu le redécompresses, de 1 giga, tu fais 10 gigas. On appelle ça une compression sans perte. Il y a des compressions avec, on va pas faire un cours d'informatique maintenant, mais par exemple, quand vous avez un CD, aujourd'hui il y a plus beaucoup de CD, mais quand vous avez un CD et vous voulez le convertir en MP3 par exemple, là vous avez un convertisseur dans votre ordinateur qui va convertir le CD qui a en général à 600 bits/seconde et va le convertir à 128 bits/seconde. Donc là, il y a une compression avec perte. Seulement, on va estimer qu'on va supprimer tous les sons que l'oreille n'entend pas. 128 ou 360 ou 200, enfin, peu importe. Seulement, l'idée, c'est de dire, on va enlever des choses, mais on va enlever des choses que tu perds pas. Ok? Pourquoi pas? Tu me dis, écoute, dans le CD, il y a des sons que l'oreille peut pas entendre. Alors, je dis, on va les enlever. Et avec ça, on va gagner de la place. C'est une bonne idée. Mais, dans la compression, vous allez compresser un fichier sur l'ordinateur, vous perdez rien du tout. Compression sans perte. Alors, je reviens maintenant à notre Tania, parce qu'on n'est pas venu pour parler d'informatique aujourd'hui. Bonsoir. Quand on dit qu'HM se contracte, on dit qu'il y a une grande lumière qui se contracte. Quel type de contraction c'est? C'est avec perte ou sans perte?
Sans perte, ça peut changer les détails.
Il faut réfléchir. On va réfléchir.
La vision est différente.
Ça veut dire qu'il est fort dans le contraire des sens.
HM, il dit, je peux pas te donner 100 parce que 100, ça va t'éblouir. Je vais te donner 10. Est-ce que dans les 10, il y a les 100? Ou pas?
Pourquoi c'est compressé? C'est possible.
Ah non, avec 10.
Ah oui, mais ça veut dire en d'autres termes. Je vais pousser un peu plus la question. Ça veut dire que moi, je reçois 10. Est-ce que c'est 10, je peux en faire 100?
Non, peut-être. J'ai 10.
Parce que si c'est compressé et que j'ai le bon programme, je peux décompresser et en faire 100.
Non, mais attends, c'est lui qui compresse, donc j'ai pas l'outil pour décompresser.
Ah oui, bravo.
Mais qui te dit qu'il t'a pas donné l'outil pour décompresser?
Si on savait qu'on avait l'outil pour décompresser,
regarde. On va aller sur les idées de base. D'accord? On va procéder par élimination. Tout le monde est d'accord que Dieu, à la base, il donne 100. Tout le monde est d'accord qu'à la base, je reçois 10. Ça, il n'y a pas de question dessus. La question est, où sont partis les 90?
Elles sont atténuées.
Est-ce qu'ils sont atténués? Ou est-ce qu'ils sont compressés?
Ah, ils sont en mémoire. Ils sont en mémoire. Tu cliques deux fois, tu reviens. Tac, tac.
Donc mettez cette question pour l'instant dans la tête, pour essayer de comprendre. Et c'est très important, parce qu'on te dit qu'on a une lumière compressée, on a une lumière comprimée d'HM. Est-ce que cette lumière comprimée, finalement, est décompressible?
On peut y accéder.
Mais c'est exactement la même, même réponse qu'avec Windows RAR. C'est exactement la même chose. Où ils sont les 10 gigas? Il y en a qu'un devant toi. Ils sont là-bas, ils sont à l'intérieur du fichier, seulement tu en vois qu'un.
Donc toi tu dis que tout est là en vérité.
Il faut chercher. Il n'y a rien qui est
là. Moi je lui peut-être que tout n'est pas là. Parce que regarde, quel exemple a donné le roi David? Il a donné l'exemple du soleil et du bouclier. Donc il y a le soleil et un filtre. Lorsque le soleil filtre la lumière, est-ce qu'il y a toute la lumière qui passe?
Non,
attends, deux secondes. Donc il y a une partie de la lumière qui ne passe pas. Et que tu récupéreras jamais. Et qu'une fois que tu as dépassé le bouclier, une fois que tu as dépassé le filtre, cette lumière que tu as perdue, elle ne sera jamais récupérée.
Mais elle est au-dessus du bouclier.
Non, très bien. Moi, au-dessus, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis en dessous.
Alors, tu es en dessous, tu passes que 10.
Non, moi, c'est ma question. Peut-être que on te fait, il y a une formule qu'on doit te comprimer parce qu'il faut comprimer, on n'a pas le choix. Mais on va te donner un condensé que si tu veux décompresser, tu peux le décompresser. On voit ça dans beaucoup de domaines dans la vie. Comme, par exemple. Par exemple, la naissance d'un bébé. Le bébé, il a démarré comment ? Il a démarré d'une goutte. Comment tu peux expliquer qu'une goutte a fait un bébé ? D'où vient le bébé ? D'où il sort ? Non, mais je comprends, mais. Oui. D'où il sort ? Il y avait une goutte. Comment cette goutte fait un bébé ?
La femme, dans la mer, ça.
Il y a un problème.
Il y a un programme. Il y a un logiciel.
Et on te dit, et même médicalement, on te dit. Même médicalement. On te dit que tout était dans la goutte. Ouais. Tout était dans la goutte. Tout est dedans.
L'ADN.
Tout. Ouais. C'est même plus que l'ADN. L'ADN dans une goutte, l'ADN. Ouais, je te parle tout. La tête, les mains, les pieds. C'est écrit dans Tania, même les cheveux. Tout est dans la goutte. Ouais. Seulement la femme, elle a le programme pour décompresser. Le mari, il n'a pas ce programme. Mais la femme, elle n'a pas la matière première.
Chacun a sa part.
Là, vous voyez dans cet exemple que la femme va dire j'ai reçu une goutte, mais cette goutte, ça fait un bébé. Parce que ça a été comprimé en une goutte, et de cette goutte, tu peux faire un bébé. Et ce bébé, on fera un autre, etc. Ça, c'est fini. Ça dit ta mère en âme. Donc, on voit cette idée qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde, que tu peux prendre un élément qui a l'air tout petit, mais que tu décompresses. Et que tu montres qu'en vérité, il est beaucoup plus profond qu'il en a l'air et qu'il y a tout dedans. Alors je repose ma question. Lorsque Akadosh Baruch Hu m'envoie de l'énergie, une énergie comprimée, parce qu'il n'a pas le choix, parce que sinon j'explose, est-ce que cette énergie, page 54, est-ce que cette énergie comprimée, est-ce que je peux la décomprimer ou pas ? Première question qu'on va garder en tête. Ok. Deuxième notion sur laquelle je voulais vous parler, mais on va revenir tout de suite à la première, c'est la notion une notion qu'on retrouve beaucoup en Kabbalah aussi, de Or et Keli. Or, c'est la lumière. Keli, c'est le réceptacle. C'est des termes qui sont des termes du Kabbalah, on va essayer de les expliquer. Et ça, on retrouve très 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 souvent dans la Kabbalah pour expliquer n'importe quel niveau. Or et Keli. La lumière et le réceptacle. C'est quoi la lumière, c'est quoi le réceptacle ? Alors en français un peu plus moderne, on pourrait dire or, c'est l'énergie. Et Keli, c'est le conduit de l'énergie. Et en fait, quand on réfléchit dans tous les domaines de la vie, pour que ça fonctionne, il faut un or et un Keli. Il faut une énergie et il faut un conduit. Exemple. Je viens de parler d'un bébé. Un bébé qui est né. Pour que ce bébé naisse, il y a eu besoin d'un or et d'un keli. D'une énergie et d'un réceptacle, d'un conduit. L'énergie, c'est le père qui l'a donné. Et la mère aussi qui va donner à sa façon. Le conduit, d'accord, c'est la matrice où ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Vous pouvez prendre par exemple, voilà, ici par exemple, j'ai la lumière. Comment je peux avoir cette lumière ? S'il y a de la lumière, c'est qu'il y a de l'énergie. Maintenant, cette énergie doit forcément être contrôlée. Elle doit passer par un conduit.
Des câbles.
Mmh. Des câbles, des transfos, etc. C'est-à-dire qu'il y a un conduit. Maintenant, un conduit qui doit réduire progressivement cette énergie. C'est-à-dire que de base, quand tu vas à la centrale, c'est du 300 000 volts.
Ah oui, bien plus.
D'accord. Et après, tu as des transfos, tu as le transfo de quartier qui est là quelque part en dessous, là-bas, d'accord. Après, tu as les transfos de quartier, après, tu as le transfo qui est là, après, tu as le transfo qui est en dessous, et tu as les transfos comme ça qui font que. Quel est le rôle de ce transfo ? C'est de conduire la lumière et de faire en sorte que l'énergie va être conduite comme il faut. Parce que si on a l'énergie mais qu'on n'a pas de conduit, l'énergie s'en va. C'est comme tout. Elle s'évapore. Elle peut pas tenir. Elle explose, elle tient pas. Pour que ça tienne, il faut avoir une énergie qui a un conduit. D'un autre côté, si je n'ai que le conduit sans l'énergie, c'est comme si j'avais un fil de courant, mais qui n'est pas connecté à la prise. Donc il n'y a rien. Tu as un fil, mais il n'est pas connecté. J'ai un conduit, j'ai un réceptacle, mais je n'ai pas d'énergie. Donc c'est des termes qui sont répétés souvent en Kabbalah. Or et Keli. Or, c'est la lumière. La lumière dans la Kabbalah, c'est le symbole de l'énergie. Et Keli, c'est le réceptacle. Et le Keli est très 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 important. On le retrouve déjà depuis Bereshit. Et là, on va revenir à Bereshit.
Mais de temps en temps, il peut y avoir aussi le miracle qui vient se produire.
Même le miracle. Le miracle doit avoir un conduit. Il doit s'exprimer quelque part.
Par exemple, de Sarah.
Quand elle très bien. Donc voilà, très bien, très bon exemple. L'exemple de Sarah, qui va avoir naissance. Parachat cette semaine. D'accord ? Très bien. Alors, comment ça va se passer ? Il y a une énergie spéciale qui est sortie, mais il fallait un conduit. C'est quoi ce conduit ? C'est la matrice de Sarah. Qui a certes eu un miracle, qui a été modifié, ce que tu veux, mais il y a un conduit. Il y a toujours un conduit. S'il n'y a pas de conduit, ça passe pas. Sinon, c'est comme une personne qui est là, qui envoie des ordres. il rentre dans un bureau dans lequel il n'y a personne, et il balance des ordres, et il n'y a personne qui écoute. Donc, les ordres sont peut-être bons. Il est en train de dire les chiffres du loto, il est en train de etc., mais il n'y a personne qui écoute. Donc, c'est personne qui écoute. Tu as une énergie, mais tu n'as pas de conduit. Ça ne marche pas. Des fois, tu as des conduits, mais tu n'as pas d'énergie. C'est-à-dire, tu as un staff de 20 personnes qui travaillent, mais il n'y a pas une énergie. Il n'y a pas un qui dit fais ça. Il faut les deux. Dans tous les domaines de la vie. Dans votre couple, vous pouvez appliquer ça. Avec vos enfants, vous pouvez appliquer ça. Dans votre travail, dans votre neshama. Tout le temps. Par exemple, et là, voilà, justement. Dans mon être, j'ai un corps et j'ai une âme. Lequel est l'énergie et lequel est le réceptacle? L'énergie, c'est l'âme. C'est elle qui envoie l'énergie. Et le réceptacle, c'est le corps. Ça veut dire que dès qu'arrive 120 ans et que le corps n'est plus en état de contenir l'énergie, eh bien, l'énergie ne sert plus à rien. Elle s'en va. Pour que ça fonctionne, il faut gouf, venefesh, or et keli. La lumière et l'énergie. Et ça, je vous disais, on retrouve ça depuis la paracha Bereshit déjà. C'est expliqué dans le Chassidut que la première sphère qu'Hachem a créée, c'est Hatzilut. Le monde de Hatzilut. Avant, c'est-à-dire avant, on est dans un domaine qui dépasse la création. Et la première phase de la création, c'est Hatzilut. Et déjà, la Chassidut a dit que déjà à ce stade-là, il y a Orod de Hatzilut et Kelim de Hatzilut. Il y a les énergies de Hatzilut, il y a les réceptacles de Hatzilut. Après, à partir de ce moment-là, chaque chose qui est faite, t'as un Or et un Kelim. T'as une énergie et t'as un réceptacle. Tout le temps.
Dans chaque monde.
Et c'est ça le problème. Le problème, des fois, c'est que des fois, les gens, ils ont l'un et pas l'autre. On peut expliquer des tas de choses avec ça. Des fois, vous avez des gens, par exemple, qui ont des très bonnes idées, mais qui ne savent pas les mettre en pratique. Donc, ce monsieur, il a un Or, il a de l'énergie. Mais il n'a pas le keli. Il n'a pas le réceptacle. Donc ça ne sert à rien. Ses idées s'envolent. D'un autre côté, il y a des gens qui ont une capacité à mettre en pratique des idées, mais qui n'ont pas d'idées. Ils sont à court d'idées. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour... Ils ont la tête bien, très bien structurée. Ils sont capables de te gérer un projet de A à Z, mais il n'y a pas de projet. Donc s'il n'y a pas de projet, tu ne peux rien faire. Il faut un projet. Il faut les deux. Et dans toute entreprise, c'est comme ça. Il y a toujours un qui donne l'idée et l'autre qui la développe. Or, keli. L'énergie et le keli qui développe ça. Et je disais que ça, on le retrouve depuis la création du monde, et comme on va développer tout de suite, que depuis la création du monde, comment Akadosh Baruch Hu se compresse, comment Akadosh Baruch Hu se contient, c'est par les otiot, par les lettres. Par exemple, dans Parasha Bereshit, qu'on a appris il n'y a pas longtemps, c'est écrit « Vayomer Elohim Yehi Or »« Dieu dit que la lumière soit, Vayehi Or et la lumière fut. » Comment on écrit « Or » Comment on écrit « Or » Aleph, Vav, Resh. Aleph, Vav, Resh. Trois lettres. Or, Aleph, Vav, Resh. Avec un cholam malé, un cholam entier. C'est comme ça que c'est écrit dans le Chumash. Hein?
Il y a un Vav, c'est divin, non?
Non. C'est, le Vav, c'est pour faire office de cholam.
Le haut.
Donc, Vayehi, Or. Et la lumière, fut. Maintenant, on va parler justement, par exemple, de la lumière. Ok. C'est vrai que Dieu dit vaillez or et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, Dieu envoie une énergie, mais il va condenser, il va contracter, il va faire contenir cette énergie dans trois lettres. Aleph, Vav, Resh. Et avec ces trois lettres combinées ensemble, tu as le conduit par lequel la lumière est créée. C'est-à-dire que Adayom, jusqu'aujourd'hui, le conduit comment la lumière est créée, c'est par une combinaison de la lettre Aleph, Vav et Resh. Toute la lumière. Et lumière ici, c'est tout ce qui est lumière vient de Aleph Vav Resh. Après, à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamaim v'et Haaretz. J'ai deux choses là. Shamaim, Aretz. Shamaim, Shin, Mem, Yud, Mem. Aretz, Aleph, Resh, Tzadik. D'accord? C'est pas Stam le nom que la Torah a donné. C'est que le nom que la Torah a donné est la combinaison qui permet à la lumière d'être contenue et de s'exprimer. Et qu'est-ce qui fait que Shamaïm et Aretz et Aretz? Pourquoi le Aretz n'est pas Shamaïm et Shamaïm n'est pas Aretz? Parce que la combinaison de Shamaïm, elle est de quatre lettres, et de Shin même, Yud même, et cette combinaison ne peut générer que le ciel. Et la combinaison de Alev Resh Tzadik, qui peut provenir de la même source que Shamaïm, mais comme on est passé par la combinaison de Alev Resh Tzadik, et ben ça ne peut produire que Alev Resh Tzadik Eretz la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais donner un exemple.
C'est pas un nom, alors finalement c'est une traduction de ce qui est.
Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que la grande force d'Adam Harishon, c'est qu'il a donné des noms aux animaux. Mais il n'a pas seulement donné des noms. Il a donné des noms qui correspondaient au conduit de l'énergie divine qui les faisait vivre. Et c'est pour ça qu'on dit que Adam était la personne la plus intelligente sur Terre. Parce qu'il avait la capacité de voir ce qu'il y avait derrière les choses. C'est-à-dire, il voit un lion, Il voit pas un lion, il voit le conduit divin qui a fait que le lion, il a dit, ah ça, c'est la combinaison de Alev Resh Yudé, tu t'appelleras Arié.
Si c'est l'homme le plus intelligent du monde, pourquoi il a besoin de manger le fruit
d'un arbre? Ok, très bien, c'est un autre débat. Sujet. Les gens bêtes font pas d'erreur. D'accord. C'est énorme ça. C'est-à-dire de comprendre que le conduit, l'énergie est la même, mais après c'est le conduit qui fait la différence. Le conduit qui fait la différence. C'est-à-dire, tu peux avoir comme en cuisine, comme dans tous les domaines, tu peux avoir la même matière première, mais selon le conduit que tu vas prendre, là tu fais une tourte, là tu fais un gâteau, là tu fais des pâtes, là tu fais ci, tu fais ça. Selon la combinaison que tu fais, tu as un plat complètement différent, qui n'a rien à voir. C'est une combinaison, c'est une création. Et ça, c'est le Kéli. Ça, c'est le rôle du Kéli. Le rôle du Kéli, c'est de façonner l'énergie. Donc il a un rôle très, très, très important. Notre corps est le Kéli, par exemple. Dieu, quand il me crée, il me donne de l'énergie. Une énergie qui est capable de, qui est une énergie pour être capable de voir, d'entendre, de parler, de respirer, etc. Mais qui va façonner cette énergie? Il faut la façonner. Qu'est-ce qui va faire qu'avec cette énergie, maintenant je respire? C'est quelque chose de physique, ça. Ça, il faut qu'il y ait un corps par derrière qui prend cette énergie, qui dit, bon, bah, il y a une énergie ici, je vais la convertir, je vais chercher dans la neshama la parcelle qui est capable de respirer, mais qui veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel, d'abstrait, et je vais en faire une respiration physique. Et ça se passe maintenant, devant mes yeux. C'est en train de se passer là. Là, maintenant, à l'instant où je vous parle, chaque seconde, on respire. Comment je respire? Parce que j'ai le conduit de mon corps qui a utilisé l'énergie de la neshama pour me permettre de vivre, pour me permettre de voir. Je vous vois, je vous entends. C'est-à-dire, tout ça, c'est une optimisation de l'énergie de la neshama. C'est le même moteur, c'est la neshama. Mais là, peut-être, là, il fait tourner la clim, là, il fait tourner le moteur, là, il fait tourner les roues, il fait tourner ci, il fait tourner ça. Chacun a sa place. Ça, c'est le conduit. Le conduit de la neshama. Donc, ces deux notions. Maintenant, les deux notions que je vais vous expliquer, à savoir Tzimtzum, la contraction, et Kéli, sont en vérité la même notion. C'est exactement la même chose. Parce que quel est le rôle du Kéli? Quel est le rôle du réceptacle? C'est justement de contracter l'énergie et lui donner une expression. Sans forcément qu'il y ait une perte. C'est de lui donner une expression. Alors là, c'est intéressant. Parce que quand on prend l'exemple du bébé, on a vu que la maman a pris une goutte qui aurait pu partir dans la nature. Elle a pris cette goutte et elle va lui donner une forme, elle va lui donner une expression, un Kéli, un réceptacle. Est-ce que la mère a perdu une goutte de la goutte? Pas du tout, elle en a fait un bébé. Elle a fait un bébé, c'est-à-dire qu'elle est partie encore plus loin que ce que tu lui as donné. Donc ça veut dire que le Kéli, le réceptacle, n'est pas forcément réducteur. Le réceptacle peut être, au contraire, donner la possibilité à l'énergie de pouvoir se développer et de pas perdre l'énergie. Vous savez, une fois, le rabbi, il a fait un Fabringen, il a expliqué, à cette époque-là, on parlait beaucoup de, bon, aujourd'hui, c'est répandu, tout le monde connaît, mais l'énergie du laser. Est-ce que vous savez quelle est la chorma du laser? Pourquoi le laser est d'une extrême précision et qu'il y a pratiquement rien qui tient au laser aujourd'hui? Enfin, je crois qu'il y a rien qui tient au laser d'ailleurs.
C'est le reflet. Hein?
À l'époque, on disait que pour couper, ce qu'il y avait de plus solide, c'était le diamant. Tu sais, il y a des niveaux, de 1 à 8, je crois, ou de 1 à 10, il y a des niveaux comme ça. D'accord? Par exemple, il y a des verres qui peuvent se rayer, etc. Et la matière la plus endurante, c'est le diamant. C'est le diamant. D'accord? Comment on coupe le diamant? Avec un diamant.
Avec une bière.
D'accord? C'est vrai? Comment on coupe le diamant? Avec un diamant. Mais, on peut utiliser aussi le laser. C'est quoi la force du laser? Quoi la chorma du laser? Le laser, c'est une lumière. Alors, la lumière, pourquoi cette lumière ne coupe pas? Alors, c'est quoi la chorma du laser? Chorma extraordinaire.
Compressé.
Exactement. C'est que la chorma du laser, c'est qu'on prend toute l'énergie et on la concentre sur un point.
Un tout petit point. Ouais.
Un tout petit point. Le point le plus petit possible. Et plus le point est petit, plus tu arrives à contracter le point, et plus l'énergie que tu as peut te faire sauter une montagne.
Cette machine, je sais pas si vous connaissez, machine à couper, ils ont réussi à couper du. Comment ça s'appelle? Une bière très dure de la roche.
Carbone?
Non, plus que carbone. C'est un jet d'eau très très fin.
Et
il coupe, Il mec, il coupe un truc, un granit qui fait une lettre dedans. C'est un mec qui fait de l'enseigne. Il te coupe une lettre et la lettre coule, clairement.
La puissance.
Pourquoi? Parce que c'est l'idée qu'on a expliquée.
C'est tout petit, il y a un millième de.
Que plus tu arrives à concentrer, et plus ton énergie est forte. Maintenant, on se dit, c'est pas logique. On se dit, mais je comprends pas, j'avais une très grande lumière, tu m'en as fait une petite lumière. Je dis non, t'as pas compris. Toi, tu crois qu'elle est petite, mais en vérité, elle est concentrée. Et tout est dedans. Et avec cette lumière, je peux te faire sauter du diamant, je peux te faire sauter. Il n'y a aucun problème.
Ah oui, tout.
C'est énorme. Alors le Rabbi il expliquait que de la même façon on apprend, et ça rejoint notre cours, on apprend un enseignement, que de la même façon dans le service divin, des fois les gens ils pensent, ils se disent, ah il faut qu'on change tout, il faut qu'on change ça, etc. Mais quand tu veux tout changer, tu changes rien. C'est comme si tu envoies une flaque d'eau sur ton diamant. Et ben ton diamant il va être mouillé, c'est tout. Il va rien se passer. Des fois, ce qu'il faut savoir faire, c'est qu'il faut savoir faire une coupe chirurgicale. De dire, je vais chercher un point. Un point, je sais que c'est le point qui est pas bon. Et ce point, je vais le couper. Mais je mets toute l'énergie dessus. C'est-à-dire, j'y vais sur ça. Sur un point. Je tombe pas autour. Ce point. Et si tu sais le faire, on n'arrive pas toujours à le faire. Et on n'arrive pas toujours à trouver le point. Mais quand tu arrives à concentrer ton énergie et à trouver le point, tu peux te faire ce point. C'est exactement ce qu'on dit ici. C'est-à-dire que le Kelly, celui qui va réduire la lumière, ce n'est pas forcément en défaveur de la lumière, au contraire. C'est ce qui va permettre à la lumière de donner tout son potentiel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc vous voyez, on a pris deux notions qui apparemment, a priori, n'avaient rien à voir. Le Tzimtzum, à savoir la contraction, et le Kelly, à savoir le réceptacle, c'est-à-dire le conduit. Et on a expliqué que c'est la même chose. Pourquoi je contracte pour être un réceptacle? Et pourquoi je fais un réceptacle? C'est pas simple pour limiter. C'est pour permettre à la lumière de bien s'exprimer et de s'exprimer de façon qui ne soit pas dans la nature, qui ne se perd pas dans la nature. Et je vous dis, cette idée-là, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de la vie. Bien sûr, dans la Torah, sur le service d'Hachem, il n'y avait pas de question dessus. Les gens nous disent d'un vrai qui ne s'arrive pas à se concentrer. Même dans les affaires, même dans l'éducation. Après, les gens disent, ah, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire avec mon fils, je ne sais pas quoi faire avec ma fille. Il faut réussir, il faut faire un effort pour essayer de se concentrer sur un point. Mettre toute l'énergie sur un point. Dis bon, ça on oublie, ça on oublie, ça on oublie. Tac, ce point. Maintenant on est dessus. Et quand tu mets toute l'énergie dessus, en général ça marche. Après c'est un problème d'un cas. Pareil dans les affaires, pareil dans tout. Il faut avoir cette chorma de comprendre de comprendre que parfois la force c'est justement de réduire, de limiter, de condenser et de dire que ça passe par là. Il faut que ça rentre dedans. Et si ça rentre pas dedans, c'est pas bon. Alors je sais qu'on dit en français qui peut le plus peut le moins, ben c'est le contraire du principe du laser. Le principe du laser c'est le contraire. C'est le moins qui peut le plus. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'est même le contraire. C'est une révolution quand le laser était sorti. Ça fait longtemps que ça est sorti, mais c'est une révolution. Les gens ils n'arrivaient pas à comprendre comment c'est possible. Et le rabbi là-bas dans ce parangain, il avait fait aussi un rapprochement avec l'atome. La puissance de l'atome. C'est quoi la puissance de l'atome? Comment est la puissance de l'atome? C'est quoi la puissance de l'atome? Mais qu'est-ce que, bon, voilà, moi, si je prends la nappe, je la coupe, il va rien se passer. J'ai pas de bombe qui va exploser. Il y a rien qui va exploser. Comment je peux expliquer que cette même nappe, si j'arrive à la décomposer et à prendre une particule que je peux même pas voir, ici même, je peux faire une bombe qui fait sauter toute la ville. Ou une énergie qui peut faire
sauter, hein? Énergie.
Comment tu expliques ça? Encore une fois. C'est que toi tu crois que la force dans la grandeur, dans les grandes choses, mais en vérité non. En vérité, plus tu rentres dans la petitesse, dans les détails, du détail, le conduit, c'est le conduit ça. Plus tu rentres dans le détail du détail, et plus t'as une force.
Mais alors tout ce que tu dis là, tu crois pas que d'ici 25-30 ans, on est capable de faire une personne vivante sans avoir l'âme? Ça veut dire avec le corps, et avec tout ce qu'on a comme technologie nouvelle. Une fois que la personne n'est plus vivante, on pourrait transformer cet homme en robot tout en ayant le corps. C'est pas possible ça? Avec tout ce que tu viens de dire là, l'atome, l'énergie, le laser et tout, tu peux transformer une personne.
Non,
il n'y a plus l'âme.
Il manque l'âme.
Oui. Oui. Non, mais il manque l'âme, mais il pourrait bouger.
Comment il va bouger?
Comme un robot.
C'est un robot.
C'est-à-dire que tu gardes, tu ne sais plus une masse.
Mais il a jamais des masses. Oui, mais le problème, c'est nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on veut qu'il
ait. Avec toutes les énergies nouvelles qu'on a là.
J'ai compris, mais la force de l'homme, c'est qu'il a une énergie autonome. Ça, c'est incompréhensible, ça. C'est-à-dire, ça, par exemple, il y a de l'énergie dedans. Mais c'est pas autonome.
Il faut bien ce qu'on a.
Il faut l'énergie, il faut
ce qu'on. En quelques temps, là. On est capable.
Ce téléphone, demain, il fera pas 10 téléphones. Il va pas grandir de taille. Il peut pas grandir. Il reste qu'il est.
Mais on est capable de concentrer l'énergie de plus en plus.
Ouais.
On parle de pixels, de machin.
Oui, bien sûr, bien sûr. Faire un homme, on pourra pas faire.
Il y a eu des clonages,
même, bien sûr, clonage, on peut faire, mais. Je vous explique. Votre œil, l'œil avec lequel vous me voyez maintenant et lequel je vous vois, capte mieux que le meilleur des capteurs au monde. Il n'y aura jamais un capteur au monde qui ira aussi loin que votre œil. Pourquoi je parle de l'œil? Je parle même de votre cerveau. Votre cerveau contient plus d'informations.
Aussi bien.
Écoutez, okay. Michel, votre cerveau contient, ou en tout cas peut contenir plus d'informations et peut être beaucoup plus rapide que n'importe quel ordinateur au monde. N'importe quel supercalculateur.
On peut pas développer encore.
Seulement, voilà, il faut le développer. Ça veut dire que c'est pas une machine, là. On parle d'énergie. C'est de l'énergie divine qu'on a en nous. C'est pas une machine que t'as programmée à tourner, une roue que t'as programmée pour tourner, bon, elle va tourner 100 000 tours minute.
Quand tu parles d'intelligence artificielle, ça reste difficile.
Oui, ça reste difficile, c'est programmé.
Mais ça bouge quand même.
Non, oui, c'est
un programme.
Oui, mais on ne peut pas reproduire l'identité.
Non, c'est clair.
Mais vous avez raison, que je comprends votre idée, que si on arrive à, en fait,
la Rochma,
voilà, exactement, j'ai compris la question.
À un moment donné, tu dis, bah, tiens, j'ai ça, je peux faire ça, je peux faire un truc.
C'est vrai, vous avez raison.
Donc tu vas créer toi, et puis on va dire, bah voilà, il n'y a plus besoin d'eux, ça fait
peur. C'est que la Rochma appartient à ceux qui arrivent justement à concentrer l'énergie. Concentrer l'énergie.
Tant que là, tu lances.
Ok. Et bien justement, on va expliquer, c'est ça le secret des lettres. On y va dans les mots, allez. Donc, ça, je trouve que c'est une parenthèse magnifique que vous voulez de Mourazakan ici. Vehine, prinata tzimtzum vehestarachayut, nikra veshem kelim. Le tzimtzum est, vous avez dans les mots, en haut de la page 54. Le tzimtzum est la dissimulation de la force vitale et ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah kelim, les réceptacles. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer dans la dernière demeure. C'est ça le réceptacle. Vehayut atzmo, alors que l'énergie même, Nikra Beshem Or est appelé Or. Or, lumière. D'accord? Tchikmo, Shakeli Mechasal Mashibetoro, que de la même façon que le réceptacle dissimule la lumière qui est en lui. Kar, Prina, Tatsimtsu, Mechase, ou Mastira, Or, Vachayut, Achofea. De la même façon, le Tzimtzum, la contraction, va cacher et voiler la lumière et l'énergie qu'elle est en train de donner. Très intéressant ce qu'on est en train de dire ici. On va reprendre l'exemple de l'électricité. S'il y a de l'électricité ici, enfin si j'ai de la lumière qui éclaire ici, ça veut dire qu'il y a de l'électricité derrière. Mais est-ce que je vois de l'électricité?
Non.
Pourquoi?
Ça vibre.
Pourquoi je ne vois pas l'électricité? Attendez, on va réfléchir ensemble. Pourquoi je ne vois pas d'électricité? Parce que justement, parce que l'électricité est une énergie, mais le conduit, à savoir qui est le LED, la lumière, etc., va cacher la lumière, va cacher l'énergie. Parce qu'il va lui donner deux secondes. Il va la cacher dans le sens, il va lui donner une forme. Exactement comme le bébé. On reprend l'exemple du bébé. J'avais un bébé, ça démarrait d'une goutte. Est-ce que cette goutte sera visible lorsque le bébé va sortir 9 fois plus tard dans le ventre de sa mère? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le bébé, justement, le Kelly, le réceptacle,
a transformé
et donc, du coup, il a peut-être développé, mais en transformant, il a dissimulé l'énergie initiale. C'est obligatoire. Parce que, tant que l'énergie initiale n'est pas dissimulée, ça ne peut pas s'exprimer. C'est exactement comme dans l'exemple de l'électricité, comme dans tous les exemples. Je vais aller un peu plus loin. Bon, prenons l'exemple d'un PDG qui arrive, qui rentre dans le bureau et qui va donner une idée. L'idée, c'est la goutte. D'accord? Et il y a un staff de 20 personnes qui est là, qui vont écouter l'idée et qui vont la disséquer, parce qu'il faut disséquer cette idée. Et voilà, toi tu fais ça, et 2 mois plus tard, on a un projet qui sort. Ok? Combien de personnes vont, pendant le travail, vont penser à l'idée du patron? Personne. Parce que, une fois que tu as disséqué le projet, tu ne penses plus à l'idée de base du patron. Toi, tu penses à ton travail. Toi, ton rôle, c'est ce rouage. C'est d'appeler tel client et de commander de la ferraille. De commander ci, de commander ça. Donc, si on dit, toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai commandé de la ferraille. Il n'y a pas de dire, j'ai fait ce projet. Parce qu'il n'est pas dedans. Parce que, étant donné qu'on a pris le projet, l'énergie, et qu'on l'a disséqué, et qu'on l'a mis dans un conduit, le conduit cache l'énergie originale. Mais ça ne veut pas dire que, parce que je l'ai caché, que je l'ai supprimé. Au contraire, j'ai caché l'énergie originale parce que maintenant on n'y pense plus. Mais en vérité, c'est comme ça que je vais justement développer le projet original et que je vais le permettre de se réaliser. Vous me suivez? C'est énorme ça. Ça veut dire que toi tu crois que ça y est, on a pu se dire, ils ont perdu l'idée de base. Tu dis maintenant, on a démarré avec une idée de base, maintenant ils sont là en train de se perdre dans les détails, qui va appeler le fournisseur, qui va appeler ci, qui va faire le phoning, qui va faire ci, qui va faire ça. Donc on se concentre sur des détails. Qui va faire la connexion internet, qui va avoir le téléphone, et qui va aller voir le client, et qui va aller voir ci, qui va aller voir ça. Tu dis maintenant, il y a une idée, où est l'idée? Tu dis mais non, t'as pas compris justement. C'est que si l'idée était restée au stade d'idée, on serait pas là, on n'aurait pas réussi. Pour que l'idée se réalise, on doit passer par une phase dans laquelle finalement on oublie quelque part l'idée. On n'est plus dans l'idée. On est dans un développement qui n'a rien à voir. Et ça, vous pouvez le trouver dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Cette idée que tu prends une idée de base, mais quand tu la développes, eh ben, le développement, le Kelly, cache l'idée de base, camoufle l'idée de base. Mais ça ne veut pas dire qu'il est supprimé. Elle est toujours là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand moi maintenant, HM, il m'envoie de l'énergie, et qu'avec cette énergie, je fais vivre mon corps, et que dans mon corps, je ne vois pas HM. Je te dis, ce n'est pas parce que tu ne vois pas HM qu'il n'est pas là. Au contraire, c'est justement parce que je suis en train de développer le projet que ça prouve que je fais le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et si on voyait HM, j'aurais pas pu développer le projet.
C'est selon sa volonté. Mais c'est ça.
Pourquoi c'est... Parce que tant que l'énergie est puissante, tant que l'énergie n'est pas contenue, tu peux rien faire avec elle.
Un éclair, par exemple.
Exactement, comme un éclair. Voilà, c'est un très bon exemple. Tu la maîtrises pas. Une énergie qui est très puissante, tu peux rien faire avec. Tu es obligé de la contenir.
La rivière.
Sur ton immeuble, tu as des antennes. À quoi servent ces antennes? À quoi? Non, des antennes. À quoi servent ces antennes? Alors, je vais t'expliquer à quoi ça sert.
Pour capter.
De base, ces antennes sont censées servir uniquement à capter la lumière, capter l'énergie du tonnerre pour pas que Dieu préserve qu'il fasse des incendies, qu'il tue des gens, etc. Mais aujourd'hui, on arrive à aller plus loin. Aujourd'hui, on arrive, mais c'est très compliqué encore. Ça coûte plus d'argent que ce que ça ramène. On arrive à essayer de récupérer une partie de cette énergie pour en faire de l'électricité. T'as rien à voir. C'est-à-dire que t'en as un qui est là pour te dire, j'ai une grosse lumière, il faut que je l'arrête. Il faut que je la stoppe. Il faut que je m'en débarrasse, cette lumière. Sans paratonnerre. Demain, un paratonnerre, c'est j'ai une grosse énergie, il faut que je m'en débarrasse. Je peux pas l'avoir ici. J'aurais été mieux sans elle. Maintenant que j'ai pas le choix, elle est venue, je m'en débarrasse. Après, tu dis non. Tu dis, mais qu'est-ce que j'en fais de cette énergie? C'est l'énergie qui est là. Tu te prends la tête à faire des centrales qui vont tourner, etc. Alors que c'est l'énergie qui est là. T'as un soleil qui est devant toi. Qu'est-ce que tu fais avec cette énergie? Mais j'arrive pas à maîtriser. Qu'est-ce que je fais avec le soleil? Vous savez l'énergie qu'avec le soleil? Avec cette énergie, on peut faire vivre la planète entière. Sans une goutte de pétrole. Seulement, c'est quoi le problème? On n'arrive pas à contenir cette énergie. On n'arrive pas à la contenir. Hein? Oui, t'arrives pas à la contenir. C'est le problème. C'est un problème qui est vieux comme le temps, ça. Or et Kelly, l'énergie et le contenant, celui qui arrive à la contenir.
L'exemple de la femme, c'est encore beaucoup plus puissant parce que là, tu parles des employés, chacun fait son taf, mais la femme, elle a l'énergie de faire tout le travail.
Oui, mais pour la femme, c'est un peu plus complexe parce que la femme n'est pas qu'un contenant. La femme, voilà, exactement. Elle participe aussi. Elle participe à ça.
C'est-à-dire qu'elle donne. Il y a son code
général. C'est la reine. Voilà.
Comme dans une ruche.
Elle donne quelque chose. Mais quand même, on retrouve cette idée. Donc, là, avec ça, le Mourad Zaken, cette parenthèse, il ouvre ici, a priori, pour expliquer l'idée de qu'on a expliqué tout le cours précédent. Que Chesed et Gvoura, la bonté et la rigueur ne se contradisent pas. Au contraire. La rigueur est au service de la bonté. Exactement comme le réceptacle est au service de la lumière. Il n'est pas venu pour limiter la lumière. Il est venu pour permettre à la lumière de s'exprimer et d'être productive. C'est pas que, c'est-à-dire, c'est, la Gevura, c'est pas un paratonnerre qui a dit, il y a une grosse énergie, il faut que je m'en débarrasse. Le but de la Gevura, c'est de dire, il y a une énergie, il faut qu'elle soit productive, donc il faut qu'on la contienne. Il faut qu'on la, et on le voit, ça, par exemple. Vous avez des fois des gens ou des enfants, etc., dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la famille, dans tous les domaines, des fois des gens qui ont une très grosse énergie. Et c'est quoi le problème? C'est qu'on n'arrive pas à les contenir. Mais c'est des gens que quand t'arrives à contenir leur énergie, ils font des merveilles.
Alors quel rapport maintenant entre Hachem et Elohim?
Eh ben c'est la même chose. Hachem c'est l'énergie, et Elohim c'est ce qui contient l'énergie. Donc toi, quand tu vois Elohim, tu crois que Elohim a réduit Hachem. Mais en vérité, il ne l'a pas réduit. Il l'a permis de s'exprimer comme il faut, de façon intelligible par les êtres humains. Donc le Elohim n'est pas venu pour nous enlever quelque chose. Il est venu pour nous donner quelque chose. Donc Dieu n'est jamais venu pour... Dieu veut donner. Et même quand tu crois qu'il se réduit... C'est pas pour se réduire, c'est pour mieux donner. C'est une idée très profonde à bien comprendre, ça. Pour moi, cette idée est révolutionnaire. De comprendre qu'il n'y a que le bon Dieu. Il n'y a pas de mauvais Dieu. Il n'y a pas de Dieu méchant.
Tout est bon.
Il n'y a que du chesed ici. Seulement, dans le cas du chesed, il y a un chesed qui s'exprime par l'énergie et il y a un chesed qui s'exprime par celui qui contient l'énergie. On va continuer parce qu'il ne s'est pas fini encore.
Pareil, sur le mot or, il n'y a pas... Il n'y a pas un contenu particulier.
Alors justement, tout de suite, on va parler de ça, des lettres.
Les lettres. Qu'il y a dedans.
Qu'est-ce qu'il y a dans les voilà.
C'est ça.
Magnifique.
C'est
voilà, c'est ça.
Dans la lumière.
100%, c'est ça.
Est-ce qu'il y a de l'eau, de l'air, du vent?
C'est quoi? On aimerait comprendre comment les lettres.
C'est pas qu'une parole.
Comment les lettres représentent un conduit? En quoi une lettre est un conduit?
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y a une énergie divine de base qui est la même, mais que selon le conduit qu'elle va emprunter, ben là, ce sera de la lumière, là, ce sera un ciel, là, ce sera la terre, là, ce sera un lion, là, ce sera ci, ce sera ça. Donc, on aimerait comprendre comment ça fonctionne. On l'explique. Vehakelim, hen aotiot. Quels sont les réceptacles? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet à la lumière de s'exprimer? Hen aotiot, ce sont justement les lettres. Ot en hébreu, c'est synonyme de dévoilement. Alors qu'en vérité, quand tu réfléchis,
c'est un signe.
Aussi. Oui, mais là, ça veut dire, là, c'est plutôt un dévoilement. Alors, quand tu réfléchis, une lettre, finalement, va limiter la chose. Parce que moi, j'avais une énergie de base. J'avais un Aleph par-ci, un Vav par-là, un Resh par-là. J'aurais pu composer des tas de choses avec. Et moi, j'ai dit non, attention. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Aleph, Vav, Resh. Donc, je lui ai donné une forme. Et je l'ai limité. Parce qu'à cause de moi, maintenant, cette énergie, cette combinaison ne peut produire que de la lumière. Elle ne peut pas produire du ciel, elle ne peut pas produire la terre, elle ne peut pas produire un lion, elle ne peut pas produire un être humain, elle ne peut produire que de la lumière. Donc je l'ai contracté. J'avais l'énergie qui était passe-partout, qui pouvait tout faire, et moi je l'ai limitée. Seulement tu dis tu ne l'as pas limitée, tu l'as rendue productive. Et t'inquiète pas, pour les autres éléments que tu as besoin, il y aura une autre lumière qui va le faire. Il y aura une autre énergie qui va le faire, t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas dérangé Akadosh Baruch Hu en contractant les choses, au contraire. Les lettres que je dois donner, c'est ça ce qui a permis à la nature de se créer. C'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois, quand on avait fait au début du Shachar Zemuna, premier chapitre, que tout est caché dans quel parasha? Parasha Bereshit. Depuis le début de Bereshit jusqu'à Yom HaShishi. Vous avez là-bas une page et demie dans Sefer Torah. C'est pas long du tout. Et on te dit que tout le code spirituel du monde, depuis la création jusqu'à Mashiach, et encore après, tout le temps, se trouve là-bas. Tous les codes sont là-bas. Tout est là-bas. Ceux qui savent dire Bereshit, ils ont tout. Pourquoi? Parce que c'est ça. Parce que c'est quoi Bereshit? Bereshit, c'est le conduit. Tu comprends? Toi, tu es là, tu dis j'aimerais plus d'électricité, tu prends, il n'y a pas de courant. Mais si tu as accès à la centrale, tu connais le code de la centrale, tu connais le conduit de la centrale, etc., ben, tu fais ce que tu veux. Tu dis bon, attends, là, tu prends là, tu passes par là, tu branches là, mets là, tac, 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 etc., tu fais ce que tu veux. C'est ça, Bereshit. Or, Kelly, en fait, à la création du monde, Hachem commence par donner or, la lumière, ça veut dire une énergie, et après cette énergie progressivement va être condensée et va être contenue elle va être enfermée un petit peu, c'est le cas de le dire, elle va être enfermée dans certains conduits, mais finalement ces conduits c'est le plus beau bienfait qu'on peut donner à cette énergie, c'est qu'on la rend productive, elle sert à quelque chose.
C'est notre force.
Sinon elle sert à rien.
On ne va pas l'avoir.
Parce qu'elle ne peut pas produire.
C'est comme l'éclair.
Oui, c'est comme l'éclair, comme tout dans la vie. T'as des gens qui sont ultra intelligents, mais ils sont tellement intelligents qu'ils sont bêtes.
C'est ça.
Ils sont tellement intelligents que quand tu le mets dans le monde du travail, il n'arrive pas à tenir. Parce qu'il rend fou, patron. Il n'arrive pas à travailler. Il a une grosse énergie. Il finit dans les asiles. Vous savez, là, vous avez un hôpital au coin de la rue. Là, au coin de la rue, là.
Ah oui, en bas.
Vous avez des gens très intelligents. Ils vous démontent la tête. Tu vas là-bas pour faire le loulou, pour faire des tilines, etc. Des gens qui te démontent la tête. Pose des questions, tu vois que ça c'est des cerveaux énormes. Alors ils sont shootés par des médicaments, mais tu vois que c'est des gens. Bon, il y a des gens malheureusement qui sont malades, mais c'est des gens très intelligents. Seulement, c'est une énergie, comme ça, la racine t'explique, c'est une énergie qui n'est pas canalisée.
C'est ça.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gens qui n'est pas canalisée? Eh ben, aujourd'hui, on les shoot avec des médicaments. On dit, t'es plus, on n'a pas canalisé, donc on shoot avec un médicament, comme ça ton énergie, elle part vraiment.
Par un tonnerre.
Voilà. La racine te dit, c'est dommage. Mm-hmm. T'es une énergie. Pourquoi tu la jettes? C'est une énergie qui est très puissante. Essaye de la canaliser. Essaye de la diriger vers l'endroit où elle peut s'exprimer, au lieu de s'en débarrasser. C'est une vraie question, ça. Aujourd'hui, dans l'entreprise, dans le monde scolaire, etc., dès que tu as une personne qui sort un peu du lot, qui est là, qui a beaucoup d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite. On veut le... Ah! On le bloque. La chassidoute, elle te dit, ok, je comprends, tu veux le bloquer. C'est une énergie qui te dérange.
À propos d'énergie, ils ont...
Mais en vérité, quand tu réfléchis bien, cette énergie, si tu arrives à la canaliser, tu peux produire des tas de choses avec ça.
Il y a une société qui a canalisé la chaleur de la climatisation l'été. Il y a de la chaleur qui sort.
Bah oui, voilà.
Ils ont récupéré cette chaleur, ils l'ont emmagasinée, ils l'ont enfermée, et quand il fait froid l'hiver, ils s'en servent de chauffage.
Mais c'est toujours le même problème, c'est que on n'arrive pas à contenir l'énergie. Par exemple, tu prends un moteur, d'accord? Tu vas monter dans une voiture. Combien tu pèses? Tu vas peser 80, 5 kilos, 120 kilos? Bon. La voiture, elle pèse combien?
100 fois.
D'accord. Ça veut dire que finalement, pour déplacer 120 kilos, tu as déplacé de 2 tonnes.
Ah oui.
Tu comprends? Maintenant, pour déplacer 2 tonnes, tu as fait un moteur. Ce moteur, il a généré de la chaleur. Mais il génère tellement de chaleur que tu as un circuit de refroidissement pour éviter cette chaleur. Mais je dis, mais je comprends pas, mais cette chaleur, j'en ai besoin. Parce que cette chaleur, si j'arrivais à la contrôler, elle aurait pu me faire tourner le moteur. Mais moi, j'arrive pas à m'en occuper. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un circuit de refroidissement qui va me coûter de l'énergie aussi. D'accord. Pour refroidir l'énergie que j'ai créée. Alors, j'en ai besoin.
On crée beaucoup d'énergie. Bon, il faut en enlever. Et du coup, c'est la.
Il faut aller à un garagiste m'expliquer. J'ai dit, mais c'est un truc de fou, ça. À quoi il sert ce circuit de refroidissement? C'est-à-dire que la voiture, elle monte en température et j'ai besoin de cette énergie. Je dis non, il y a trop d'énergie, il faut me refroidir tout ça. C'est-à-dire qu'on voit ici finalement que le secret appartient à ceux qui savent maîtriser l'énergie. Tu sais maîtriser l'énergie, tu as tout dans la main. Le Kelly. Au lieu de dire je vais m'en débarrasser, je vais la refroidir par un circuit de refroidissement, je dis non, pourquoi je vais la refroidir, je vais la récupérer.
Alors, tu vois, ce principe-là, il est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans les voitures.
Ça veut dire que... un maximum.
On fait de la récupération.
Ah oui, bien sûr. C'est ça, c'est voilà. Réagir. Vous avez les Tesla et toutes les voitures-là. Quand vous freinez...
Les voitures, justement, les voitures qui sont thermiques, pour abaisser leur consommation, il y a une batterie hybride, qui va récupérer l'énergie du freinage, qui va récupérer beaucoup de choses.
Parce que quand tu freines, tu génères l'énergie. Parce que la friction génère l'énergie. Et qu'est-ce que tu fais avec cette énergie ? Oui, c'est une folie. On ne se rend pas compte à quel point. Hein, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Or et Kelly. Tout est là. Or et Kelly. L'énergie est celui qui arrive à contenir l'énergie. Contenir. Il faut réussir à la capter. Alors, en ce qui nous concerne pour la création du monde. C'est quoi les kélim? C'est les otiotes, c'est les lettres. Les lettres, d'accord? Alors, on sait par exemple que dans les lettres, il y a plusieurs catégories de lettres, d'accord? Il y a des lettres qui correspondent à un nom d'Akadosh Baruch Hu, enfin, qui correspondent à une énergie qui ne change pas. C'est expliqué en Chassidut que le nom Yud-Ké Vav-Ké, les quatre lettres du tétragramme, ça représente une énergie divine invariable. Ça veut dire que le nom Yud-Ké Vav-Ké est un nom qui ne peut pas rentrer dans un kéli. Qui ne peut pas être limité, qui ne peut pas être condensé dans un réceptacle. Parce que il est trop fort, il est trop puissant pour être entré. Il est intemporel, il est au-dessus, il est omniprésent. Ça, c'est Yud-Ké Vav-Ké. Mais tu as le nom Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est justement une énergie qui va déjà être capable de rentrer dans la nature, de prendre une forme. C'est une énergie divine qui peut prendre une forme. Il va prendre telle forme, ou telle forme, ou telle forme, que tu peux quelque part limiter. Mais c'est pour son bien. Parce que si tu ne limites pas, tu ne produis rien. On ne peut rien produire si on ne limite pas. Notre rôle, c'est de savoir limiter les choses. Alors, on arrive aux otiotes. Les otiotes, c'est la combinaison spécifique, comme il explique ici, par laquelle on va développer la chose. Après, il rentre dans beaucoup de détails avec le soleil, etc., mais on va pas rentrer dedans. Ok. Chez Shorshan, je vous avais dans les mots chez Shorshan. Shorshan, he otiot, mem nun tzadik pe chafsofit. Alors en fait, on parle beaucoup dans la Kabbalah de 5 gvurot. Vous vous rappelez, au Shana Rabba, on a pris 5 aravot et on a frappé 5 fois. Pourquoi 5? Pour adoucir les 5 gvurot, les 5 attributs d'Hachem qui représentent la contraction. Donc ça veut dire qu'il y a le chiffre 5. On retrouve dans les lettres sofit. Il y a les lettres classiques et les lettres sofit. Les lettres classiques, c'est une forme de keli, c'est-à-dire c'est une forme de, si vous voulez, de récipient, mais c'est pas une contraction qui est poussée. Alors que les 5 lettres sophites, à savoir mem sophite, nun sophite, tzadik sophite, pe sophite, raf sophite, il y en a que 5, il n'y en a pas une de plus. Pour regarder dans votre livre, dans votre sidour, les lettres sophites, c'est quoi une lettre sophite? C'est une lettre qui existe la même en ouverte et en fermée. Ouais. On est d'accord? Même, il y a le même classique, même sophite, nun classique, nun sophite. 5 lettres, il n'y en a pas une de plus. Et pourquoi ces lettres existent en sophite? Parce que justement, il explique ici que ces lettres qu'on appelle les lettres doublées représentent justement la rigueur pour dire j'avais un même, mais ce même maintenant, je vais le fermer. D'accord? Toujours. C'est-à-dire, l'idée d'une lettre sophite, c'est que je prends une énergie et je la bloque. Alors, dans certaines lettres, on le voit graphiquement. Dans d'autres, on le voit pas graphiquement. D'accord? Mais ça change pas. Ça change pas. Que l'idée d'une lettre sophite, c'est que j'avais un même, qui était une énergie, mais là, pour intensifier l'énergie, je vais la brider. Je vais faire un même que j'ai, sophite. Et là, toi, tu crois que tu l'as bridé, mais en vérité, en la bridant, t'as tout fait. Tu as tout fait, tu as créé. Et là, par exemple, on pourrait aller très loin, par exemple, ça ne s'arrête pas dessus, mais prenez par exemple, Dieu va créer la base. Bereshit bara Elohim et ta shamaim ve ta aretz. Allez, on y va. Shamaim. Est-ce que shamaim, il y a même sophite à la fin? Shin même. Yud, même sophite. Eretz. Aleph, Resh, Tzadik, sophite, encore une fois. C'est quoi le sophite? À quoi il sert le sophite?
Il a concentré.
D'accord? Or, il n'y a pas de sophite. Or, dans le mot or, il n'y a pas de sophite. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de sophite, ça veut dire que l'énergie du or est une énergie qui n'est pas trop contractée. un mot qui a une lettre sophit représente une énergie qui a été contractée plus que les autres. On peut prendre tous les autres choses. On peut prendre Bereshit maintenant, si vous voulez, on pourra voir. D'accord? On prend tous les mots qu'il y a dans Bereshit. Vous verrez que un mot dans lequel il y a une lettre qui est sophit, c'est un mot qui, dans lequel l'énergie est très contractée. Or, justement, Shamaïm, effectivement, c'est contracté. L'énergie est contractée. Aretz, c'est contracté, c'est la terre. Or, l'énergie n'est pas contractée. Parce que c'est vrai que c'est contracté, mais c'est de la lumière. Je vois l'énergie devant moi. Donc, il n'y a pas de lettre sophit. Etc. D'accord? Alors, on continue. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a créé? Prenez Maïm. Même sophit. Il y a une lettre sophit. Pourquoi il y a une lettre sophit dans Maïm? Parce que l'eau, dans l'eau, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie dans l'eau. Tu prends Esh. Il n'y a pas de sophit. Parce que dans le feu, tu vois l'énergie. Hein?
Le vent.
Pareil? Tu vois l'énergie dans le vent? Tu sens une énergie. On pourrait aller très loin. Je ne sais pas si je détiens la formule, parce qu'il s'arrête pas dessus ici, pour expliquer toutes les notions, mais on voit clairement la puissance d'une lettre sophit. Une lettre sophit, c'est une lettre qui va te contracter la notion plus que les autres. Mais c'est pour son bien. Ok? Alors, Amechalkot, Mafridota, Evel, Vakol, Behemot, ça t'appelle les travaux Travetotiot. Donc, ce sont les cinq lettres. Donc, en vérité, ce qui t'apprend ici, c'est que nous, on croit que les lettres commencent par Aleph Bet, mais en vérité, c'est faux. L'origine des lettres, et même Nun Tzadik Pechav Sophit. Et que c'est à partir de ces 5 lettres Sophit que vont être générées les 22 lettres. C'est elles qui vont générer les 22 lettres. Parce que le concept de contraction, ça vient de ces 5 lettres. Ok? Veshorash et Gvorot ou Boutsina de Kardunita. Et l'origine des 5 Gvorot, donc des 5 énergies, ou Boutsina de Kardunita, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah la lumière noire. On en parle aujourd'hui. D'accord? C'est quoi la lumière noire? Si elle est noire, elle n'est pas lumière, parce qu'une lumière c'est pas noire. C'est quoi la lumière noire? C'est que la lumière noire, on dit que c'est la profondeur de la lumière qui se trouve dans la lumière, d'accord? Mais que tu ne peux pas voir, mais qui est en vérité plus forte que la lumière classique. La lumière noire a une énergie qui est plus forte que la lumière classique. Le problème, c'est que cette lumière est contenue et contractée. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Toi, tu crois que ça s'est réduit, alors qu'en vérité, ça ne s'est pas réduit. C'est une lumière noire. Vous me suivez? Toi, tu crois qu'entre la lumière noire et la lumière blanche est plus forte. Réponse de la Kabbalah te dit c'est faux. La lumière noire, en vérité, est plus forte. Parce qu'elle a été contractée. Elle est contractée. Dès que c'est contracté, automatiquement, c'est l'énergie qui est plus forte. Ok? Bon, ça, on pourrait s'attendre encore beaucoup dessus. Chez Gvura de Ila d'Atikyomin, qui est l'énergie donc de Gvura de Atikyomin, c'est encore une mot de Kabbalah, et Shorash Chassadim, ou Gamken Chesed Atikyomin, alors que l'origine du Chesed est aussi le chesed de Atik Yomin, Kayadou Aleyode Chorman Istara, comme c'est connu pour ceux qui connaissent la sagesse ésotérique, la Kabbalah. Bon, c'est-à-dire que là, à la fin, il nous a fait des petites allusions par-ci par-là, mais qu'on va pas développer. Atik Yomin, chesed Gvura. Mais c'est l'idée que je voulais qu'on retienne. Que toi, tu crois qu'on a contenu, qu'on a retenu et qu'on a contracté. En vérité, la contraction et le fait de prendre une énergie et de la condenser dans quelque chose, c'est beaucoup plus productif que de laisser la lumière comme ça. De laisser la lumière comme ça non limitée. Donc voilà ce qu'on doit retenir, que Akadosh Baruch Hu en vérité veut que notre bien. Et avec ça, donc, vous voyez, c'est une parenthèse dans le chapitre d'Alen. Bon, il y a beaucoup d'angles qui a coulé sur cette petite parenthèse et plusieurs sirotes du rabbi, de notre rabbi, pour expliquer, parce que on sent là que en quelques lignes, on sent qu'il touche à des tas de notions. C'est rien. Mais surtout à la fin, vous avez remarqué qu'à la fin, je me suis pas arrêté du tout. Là. Les 4 derniers paragraphes, je me suis presque pas arrêté.
Ça parce que il y a 200 ans, non
Oui. Et c'est très 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 concentré ça. Ça c'est un annexe que Mourazaken a rajouté. Petit annexe comme ça pour nous faire kiffer. Voilà. Pour nous faire réfléchir un petit peu. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui.